Bonjour, au micro Idrissa Sevudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Les quatre policiers qui ont interpellé George Floyd à Minneapolis sont dorénavant tous poursuivis par la justice et sa mort a été requalifiée en meurtre, comme le réclamaient des centaines de milliers d'Américains qui manifestent depuis la semaine dernière, ont annoncé hier les autorités. Derek Chauvin, le policier qui le 25 mai à Minneapolis s'est agenouillé sur le cou de George Floyd, provoquant sa mort, avait dans un premier temps été inculpé seulement d'homicide involontaire. Les chefs d'accusation le visant ont été requalifiés mercredi en meurtre non prémédité. Plus grave, passible de 40 ans de prison. Les trois autres agents sont désormais également poursuivis pour complicité et placés en détention, à la grande satisfaction de la famille de George Floyd. Les manifestations, qui ont parfois été accompagnées de pillages et d'émeutes, se sont poursuivies dans de nombreuses villes sans débordement majeur hier. Un apaisement qui a permis d'assouplir les horaires des couvre-feux imposés ces derniers jours pour aider à rétablir le calme, comme à Washington et à Los Angeles. Lundi, après les scènes de violence qui avaient émaillé la nuit précédente, le président américain Donald Trump avait menacé de déployer l'armée pour régler rapidement le problème, des propos immédiatement dénoncés par l'opposition qui y avait vu une dérive autocratique. En désaccord apparent avec Trump, le secrétaire américain à la Défense s'est lui-même dit hier opposé à l'idée de déployer les soldats dans les grandes villes. Jim Mattis, l'ex-ministre de la Défense de M. Trump, qui avait démissionné, est sorti de sa réserve pour accuser le président de diviser l'Amérique. De mon vivant, Donald Trump est le premier président qui n'essaie pas de rassembler les Américains, qui ne me fait même pas semblant d'essayer, a écrit l'ancien général des Marines. M. Trump l'a aussitôt qualifié dans un tweet de général le plus surestimé du monde et de chien fou, ajoutant « Je suis content qu'il soit parti ». Dans son premier commentaire vidéo depuis la mort de George Floyd, l'ex-président Barack Obama a salué mercredi le changement de mentalité opéré chez les Américains manifestant contre le racisme et les violences policières qui pourraient selon lui aboutir à des réformes au niveau national. Il a aussi exhorté les autorités étatiques et locales à revoir leur politique sur l'usage de la force. Trois militants d'extrême droite du mouvement Boogaloo ont été inculpés hier à Las Vegas, au Nevada, pour incitation à la violence lors de manifestations pacifiques déclenchées par la mort de George Floyd, qu'ils voulaient mettre à profit pour semer le désordre. Boogaloo vise la guerre civile et la chute de la société. En Gambie, la police a interdit temporairement une manifestation prévue lundi devant l'ambassade américaine à Banjul, pour protester contre les violences policières aux États-Unis après la mort de George Floyd et d'un ressortissant gambien près d'Atlanta, a indiqué hier l'organisateur de ce rassemblement. Concernant maintenant le coronavirus, selon l'OMS, après analyse des données disponibles sur la mortalité, il a été décidé la reprise des essais cliniques sur l'hydroxychloroquine 9 jours après leur suspension, à la suite d'une étude de la revue médicale de Lancet, dont la méthodologie a ensuite été vivement contestée. Par ailleurs, des chercheurs ont rapporté que ce médicament est a priori inefficace dans la prévention du COVID-19 après un essai clinique aux États-Unis et au Canada. Au Sénégal, des manifestations violentes contre le couvre-feu instauré pour endiguer le coronavirus ont éclaté hier dans plusieurs villes pour la seconde nuit consécutive atteignant cette fois-ci la capitale Dakar. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition avec Seydina Abagué. Au Niger, des milliers de personnes ont fui Intikane dans l'ouest après l'attaque djihadiste de dimanche contre cette localité abritant des réfugiés maliens, ont indiqué mercredi les autorités locales et l'ONU. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. La suite de nos informations, au Mali, le nouveau poste de commandement de la force du G5 Sahel a été inauguré hier à la base aérienne de Senou. L'infrastructure a été financée par l'Union européenne à hauteur de 1,1 million de dollars, soit plus de 642 millions de francs CFA. La réalisation a été assurée par la MINUSMA de Bamako, une correspondance de Kassim Traoré.
C'est dans la zone aéroportière qu'a lieu la cérémonie d'inauguration. Ce nouveau commandement de la force du G5 Sahel contre le terrorisme est situé dans l'espace de la base aérienne de l'armée de l'air du Mali. Il s'agit de corridors servant de bureaux pour l'administration de la force, des bunkers, des toilettes, entre autres. Le QG du G5 Sahel, initialement établi à Sévaré, avait été attaqué en 2018 par des djihadistes. Cette attaque contre le QG de Sévaré avait marqué les esprits et perturbé la mise en place opérationnelle du G5 Sahel. Mais il y a eu aussi des manifestations d'habitants à Bamako qui se sont opposés à l'installation de ces QG dans leur quartier, plus précisément à Badlabou. Cela par crainte d'un nouvel attentat. C'est ainsi que les travaux de relocalisation a traîné. Et voilà 2 ans après que le nouveau QG se transporte à Bamako-Senou derrière l'aéroport. Avec ce nouveau poste de commandement, le G5 Sahel peut redémarrer ses activités. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Les échauffourées ont opposé mercredi à Toamasina, la deuxième ville malgache, les forces de l'ordre à des manifestants qui dénonçaient les conditions du confinement imposées par les autorités pour enrayer la propagation du coronavirus. Précision d'Ekia Badou.
Selon plusieurs témoignages, les incidents ont éclaté lorsque la police a frappé un habitant qu'elle accusait de ne pas respecter l'interdiction de faire du commerce dans l'après-midi. Dans un communiqué, la police a nié ces violences. Des images d'un homme à terre ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et causé la colère de la population qui a érigé une barricade, brûlé des pneus et lancé des pierres sur les forces de l'ordre qui ont riposté par des tirs de balles en caoutchouc. Quelques heures avant ces incidents, un collectif des doyens de la ville a dénoncé sur les réseaux sociaux la décision du président André Rajoelina d'envoyer des renforts militaires et plus généralement sa gestion de la crise sanitaire. Les manifestants ont exigé sa démission. Madagascar a enregistré jusque-là quelques 900 cas de coronavirus, dont 6 décès qui sont tous survenus dans la ville de Toamasina. Alors que le président malgache a vanté dans la lutte contre le Covid-19 les vertus de l'artémise, une plante utilisée contre le paludisme qu'il a même exportée vers des pays d'Afrique et de l'océan Indien.
La Cour d'appel de Paris a émis hier un avis favorable pour la remise de Félicien Kabuka à la justice internationale. M. Kabuka est accusé d'être le financier du génocide au Rwanda. Après plus de 25 ans de cavale, il espérait être jugé en France, Claire Morin-Gibourg.
À l'annonce de la décision, Félicien Kabuka est resté impassible, assis dans sa chaise roulante. Sa défense a aussitôt annoncé saisir la Cour de cassation. L'octogénaire invoque son état de santé et la crainte d'une justice partiale s'il est transféré à Arusha, en Tanzanie, siège de l'ex-tribunal pénal international pour le Rwanda. Ses avocats ont mis en avant l'état défaillant du système de santé tanzanien et la crise sanitaire liée au Covid-19, mais ils craignent également que le mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux, qui remplace le TPIR, ne décide de remettre leurs clients aux autorités rwandaises, contournant ainsi le refus de la France de livrer les suspects du génocide à Kigali. La défense de M. Kabuka a écrit mardi au MTPI pour lui demander officiellement de se dessaisir au profit de la justice française qui a déjà jugé et condamné 3 génocidaires. Longtemps l'un des fugitifs les plus recherchés au monde, Félicien Kabuka a été arrêté le 16 mai en banlieue parisienne. L'ancien président de la radio-télévision des 1000 collines est accusé d'avoir créé les milices Hutu Interam Amwe et d'avoir acheminé des milliers de machettes avant le début des massacres qui ont fait en 1994 plus de 800 000 morts en 100 jours au Rwanda.
La Minute Écho, Ekia Badou.
Alors que la Chine se serre la ceinture économiquement, les dirigeants africains s'inquiètent de l'avenir des projets d'infrastructure, du commerce et dans certains cas demandent un allègement de la dette. Avec plus de 200 milliards de dollars d'importation et d'exportation par an, la Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Afrique. Au premier rang des préoccupations se trouve l'initiative Belt and Road ou la nouvelle route de la soie. Le gouvernement, les banques et les investisseurs privés chinois ont prêté environ 146 milliards de dollars aux pays africains entre l'an 2000 et 2017. Accor espère un redémarrage en priorité au Maroc et en Égypte. Le géant hôtelier français a été contraint de supprimer quelques 800 emplois en Afrique et au Moyen-Orient. Plus de deux tiers des hôtels du groupe sont fermés à travers le monde, d'où la mise en place du fonds All Artist, doté de 70 millions d'euros pour soutenir les hôtels du groupe. Samsung, Huawei, Apple, quasiment tous les constructeurs de smartphones ont vu leurs ventes chuter d'environ 20% au premier trimestre. Les conséquences de la crise sanitaire sont partagées par l'ensemble des fabricants, à l'exception de Xiaomi, le constructeur chinois connu pour ses offres à bas prix, qui a vu ses ventes augmenter de 1,4% d'une année sur l'autre.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. La NBA va soumettre ce jeudi au vote des propriétaires de franchise son plan de reprise. D'abord, il concerne 22 équipes sur 30, à savoir les 8 premiers de chaque conférence au soir du 11 mars, soit 16 équipes, et 6 autres se trouvant à 6 victoires ou moins de la 8e place dans chaque conférence, lesquelles se trouvent être la Nouvelle-Orléans, Phoenix, Portland, Sacramento, San Antonio à l'ouest et Washington à l'est. Les 22 engagés joueront d'abord 8 matchs de saison régulière chacun, après quoi le classement donnera une première photographie des playoffs avec les 7 premiers de chaque conférence étant directement qualifiés. Le 8e sésame fera à l'est comme à l'ouest l'objet d'un tour de barrage. La date de retour à la compétition à compter du 31 juillet jusqu'au 12 octobre au plus tard est ciblée par le commissaire de la Ligue Adam Silver, le lieu aussi à Disney World en Floride, dans des conditions de quarantaine et pour des matchs à huis clos. Et puis, le géant américain de la vente en ligne Amazon diffusera gratuitement les 4 matchs de Premier League dont il a acquis les droits pour le reste de la saison 2019-2020. Comme le reste du pays, nous sommes ravis de voir la Premier League revenir en action, a déclaré Alex Green, directeur général de Prime Video Sport Europe. La Premier League doit reprendre à huis clos le 17 juin. Les 92 rencontres restantes seront diffusées en direct et Amazon, par le biais de son service de streaming en ligne Prime Video, a les droits de diffusion de 4 matchs. Mais contrairement à ce qui s'est fait durant la première partie de la saison 2019-2020, les fans n'auront pas besoin d'avoir souscrit à l'offre Prime pour regarder ces matchs sur la plateforme en ligne. Toujours en Angleterre, le club de Tottenham a annoncé qu'un de ses membres, parmi les joueurs et l'encadrement, a été contrôlé positif au coronavirus. Il s'agit du seul cas positif après les 1197 tests effectués en début de semaine par la Premier League dans l'optique de la reprise du championnat anglais le 17 juin. Les joueurs et le personnel de la Premier League sont testés 2 fois par semaine. Jusqu'à présent, 5 séries de prélèvements ont eu lieu, révélant 13 résultats positifs sur 5079 tests. Le gardien de but de Bournemouth, Aaron Ramsdale, le défenseur de Watford, Adrian Mariappa, et l'entraîneur adjoint de Burnley, Yann Wan, font partie des personnalités qui ont été testées positives depuis le début des contrôles.
Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur les manifestations et émeutes qui se multiplient aux États-Unis plus d'une semaine après le décès de George Floyd, un Africain-Américain, lors de son arrestation par un policier blanc. Les protestataires dénoncent les brutalités policières et le racisme. Le président Donald Trump accuse les anarchistes et les médias d'alimenter la violence. La colère a également gagné de nombreuses villes ailleurs dans le monde. Nous attendons vos réactions et commentaires sur la page Facebook de VO Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Ici aux États-Unis, les funérailles de George Floyd sont prévues en fin de semaine à Minneapolis, dans le Minnesota, et également à Houston, sa ville d'origine dans le Texas. Bagassi Koura a joint dans cette ville Aristide Sidibé, d'origine malienne, qui est administrateur dans un établissement scolaire. Il parle de l'atmosphère qui prévaut avant les funérailles.
Les manifestations à Houston, d'abord, c'était des manifestations pacifiques. Bon, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, ça n'est. Mais malgré cela, hier, apparemment, la police a arrêté des gens. Bon, il faut comprendre que le défunt George Floyd est de Houston et son enterrement est prévu ici. Mais généralement, la police a une très bonne relation avec la population ici parce qu'il y a beaucoup d'immigrants qui sont des officiers de police ici. Moi-même, j'ai un jeune frère malien qui est officier de police ici à Houston.
Les funérailles sont prévues à Houston. Comment est-ce que la ville se prépare?
Bon, la ville et les communautés religieuses sont en train de se mettre à pied d'œuvre. Sa famille, je sais quand même que sa famille est à Missouri City. C'est un quartier près de mon quartier. Il y a beaucoup de communautés qui sont engagées, il y a la société civile aussi. Mais maintenant, avec le coronavirus, c'est ce qui va peut-être faire de telle sorte que les gens doivent suivre certaines mesures. Mais quand même, ce que je sais des préparatifs, c'est que la famille est en relation avec beaucoup d'associations de communautés civiles et d'églises ici.
Est-ce qu'on peut dire que cette fois-ci, le niveau de manifestation est beaucoup plus différent des autres fois?
Je crois que pour Houston, c'est un peu différent dans le sens que c'est sa ville d'origine, sa famille est là. Mm-hmm. Et aussi, Houston est un melting pot. Houston est la quatrième ville des États-Unis. Et la communauté ici, le brassage, ce qu'ils disent, melting pot, est une réalité ici. Donc, aussi, malgré cela, c'est vrai, Houston n'est pas en marge de certaines brutalités policières. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a un officier du shérif département a été sauvagement assassiné lors d'un traffic stop par quelqu'un parce que il portait le signe des Indiens là. Donc, Houston aussi a ses brutalités policières. Mais cette fois-ci, ce n'était pas la police à faire quelque chose à quelqu'un d'autre, mais plutôt quelqu'un qui pensait que ce policier-là était musulman.
Aristide Sidibé, administrateur scolaire, joint à Houston, ici aux États-Unis.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Les scènes de violence et de pillage ont dominé la couverture des manifestations contre le racisme et la brutalité policière ici aux États-Unis. Cependant, la plupart des manifestants ont exprimé leur colère de manière pacifique. Jésusman Oni de la VOA s'est penché sur la façon dont les Américains se font entendre sans violence. Reportage repris ici par Jacques Aristide.
L'émotion est vive sur le site où tout a commencé à Minneapolis. À ce mémorial de fortune sur le lieu où un policier blanc a contribué à la mort par asphyxie de George Floyd, le frère de la victime, Terrence, appelle au calme après les violentes manifestations qui ont secoué le pays.
Let's switch it up, y'all.
Allons-y tous, allons-y. Faites-le pacifiquement, s'il vous plaît.
Plusieurs villes américaines ont exprimé leur colère contre la violence policière et le racisme qui perdure depuis des décennies. Toutefois, des milliers de manifestants craignent que leurs appels à la justice soient noyés par la violence. Deirdre O'Brien, une manifestante.
George Floyd. George Floyd a été tué comme un animal et nous sommes fatigués. C'est la norme. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est en fait ce qui se passe tout le temps et qui est déjà arrivé. Et nous sommes ici juste pour dire que nous en avons assez.
Les manifestations ont été en général pacifiques, mais une minorité a réussi à semer le chaos, généralement après le coucher du soleil, avec des pillages et du vandalisme. Maria, une manifestante.
Black people in this country have never had equal protection under the law. Never.
Les Noirs de ce pays n'ont jamais bénéficié d'une protection égale devant la loi. Jamais. Quand mes enfants adultes sortent avec une capuche sur la tête, je n'ai aucune crainte pour eux. Mais ici, chaque mère craint pour ses enfants. S'ils sont des enfants noirs, s'ils sont des hommes noirs en particulier, ce n'est pas bien, c'est injuste.
Sans recourir à la violence, beaucoup de manifestants trouvent des moyens de faire avancer leur cause, la demande d'une justice raciale. Matt Manning, un avocat du Texas, offre des services gratuits aux manifestants arrêtés. Il veut montrer à ses enfants comment il utilise ses compétences pour soutenir le mouvement.
Si vous regardez le mouvement de droits civiques, les gens ont fait pour le mouvement ce dont ils étaient le plus capables. Certaines personnes donnaient à manger à tout le monde dans le mouvement parce que leur contribution était de pouvoir cuisiner. D'autres ont prêché, d'autres ont fait plusieurs choses et en tant qu'avocat, je veux m'assurer qu'à la fin de mes jours, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour aider les gens.
D'autres encore s'appuient sur leur foi. Christian Mpokoswa appelle sa congrégation multiculturelle à l'action.
As a believer, really grieves me the most.
En tant que croyante, ce qui me chagrine le plus, c'est que dans une nation qui se prétend chrétienne, ces choses dénaturent vraiment le caractère divin. J'ai deux garçons, et l'une des toutes premières choses que je leur ai enseignées sur Dieu, c'est qu'il est juste.
Beaucoup de manifestants estiment que plusieurs décennies d'oppression et de frustration ont conduit à ce moment de l'histoire américaine. L'avocat Matt Manning.
Beaucoup de problèmes que nous voyons sont systémiques. Ce sont des graves problèmes dans le système éducatif, le logement, la justice, les résultats disparates pour les Noirs et les Métis, des problèmes qui existent depuis la création de ce pays.
Des problèmes systémiques qui prendront du temps à trouver une solution.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
Au Sénégal, la contestation commence à se généraliser et touche pratiquement toutes les parties du pays. Après Kapskiring ce week-end, mardi, c'était au tour de Dakar, Tambacounda, Tuaouan, Thiès, Mbaké et Touba, avec des manifestations ponctuées d'actes de violence et de vandalisme. Les populations ne le cachent pas. Elles en ont assez des restrictions imposées par le gouvernement. De Dakar, notre correspondant Seydina Abagué.
La contestation la plus importante a eu lieu à Touba et dans sa périphérie, où le centre de traitement des épidémies qui accueille les malades de la COVID-19 a été attaqué. La cité religieuse n'a pas été épargnée puisque de violentes manifestations ont eu lieu dans ses principales artères. Une situation anormale et regrettable causée par les mauvaises décisions de l'État dans la gestion de la COVID-19. C'est la conviction de Djibril Sarr, responsable moral du Daïra Diawartoula, une association religieuse affiliée à Touba.
Vous savez, à Touba, on a un statut très très spécial par rapport aux autres régions ici au Sénégal. Donc si on a quelque chose à revendiquer, quoi que ce soit, on doit aller vers le calife, lui faire part de notre mécontentement pour une situation bien définie. Après, le calife pourra prendre des directives. Mais vu la gestion de la crise sanitaire, l'État a pris des mesures, selon moi, qui sont incohérentes par rapport à la situation actuelle du pays.
L'incohérence de l'État est également mise en cause par les jeunes de la banlieue de Dakar qui justifient leur manifestation par des tâtonnements liés à la gestion des autorités. Tcherno Tchomban affirme que le couvre-feu est une pure aberration.
On voulait montrer notre mécontentement parce que on peut pas concevoir le matin à partir de 6h jusqu'à 21h. Nous sommes dans les rues, on fait ce qu'on veut et on dit que on va créer un couvre-feu. C'est du n'importe quoi. Je peux dire que ça ne peut pas empêcher ce virus de circuler.
L'élan qui avait prévalu dans la gestion de la COVID-19 a été cassé par plusieurs facteurs, notamment les polémiques autour de la distribution des denrées, l'assouplissement des mesures et la rentrée ratée des classes d'examen. Pour le sociologue Morifal, les décisions annoncées en amont et qui n'ont pas été respectées en aval sont la source de tous les problèmes.
Quand l'État dit que demain, on va ouvrir les écoles et c'est rébif en catimini ou bien en dernière instance. Minuit, on te dit que demain, il n'y aura plus ouverture. Mais le peuple va se dire simplement, qu'est-ce qui se passe? Et c'est exact que ce qu'on raconte, c'est la vérité. Et vous savez, c'est l'élément déclencheur même des révoltes, ça et là. Ça va aller crescendo, ça c'est clair, ça va aller crescendo, parce que la population doute de son état. C'est ce qui est dangereux.
Attendu depuis hier, la réaction des autorités tarde à venir et pour les observateurs, il est essentiel que l'État se prononce sur la situation actuelle et au-delà, revenir si nécessaire sur certaines décisions qui ont pu semer le doute dans la gestion de la COVID-19. À Dakar, Seydina Bagay pour VOA Afrique.
Au Cameroun, des journalistes et des activistes appellent le gouvernement à sortir de son silence pour expliciter le sort du journaliste Samuel Wazizi. Des informations données par certains médias cette semaine disent que l'armée l'a tué en détention. Arrêté il y a environ un an pour avoir prétendument soutenu des séparatistes anglophones, Wazizi n'a pas été revu en public depuis. De Yaoundé, reportage de Moki Edwin Kinzeka, repris ici par Eric Manirakiza.
Le CNJC, Syndicat National des Journalistes du Cameroun, confirme la mort de Samuel Wazizi. Il est décédé à l'hôpital militaire de Yaoundé, où il a été transféré après plusieurs mois de torture, a écrit dans son tweet Denis Nkwebo, président du syndicat. Tous les journalistes doivent se mobiliser pour répondre au mot d'ordre que le SNJC et l'Association camerounaise des journalistes anglophones, CAMCJ, vont annoncer dans quelques heures, a-t-il ajouté. L'avocat et défenseur des droits, Christopher Ndang, affirme disposer d'informations fiables indiquant que Samuel Wazizi est décédé à l'hôpital militaire de Yaoundé des suites de blessures qui lui ont été infligées par l'armée.
The brutal torture that was exerted.
La torture brutale infligée à Wazizi par les officiers militaires est un acte condamnable. Il a été arrêté et gravement torturé. Quand il est tombé malade, ils l'ont emmené dans un hôpital militaire de Yaoundé, où il est finalement décédé. Et donc, nous demandons une enquête indépendante pour retrouver tous les coupables, afin qu'ils soient traduits en justice et punis.
Donc, dit qu'il ne sait pas quand Wazizi est mort, mais la plupart des médias locaux ont rapporté cette semaine que sa mort avait été confirmée et que les responsables militaires refusaient de montrer le corps. Des militants et journalistes camerounais appellent le gouvernement à lever les voiles de ces informations et à communiquer les circonstances si Wazizi est effectivement mort. Ambe Macmillan Awa est président de l'Association camerounaise des journalistes anglophones CAMCJ. Il estime que la mort de Wazizi en prison prouverait la manière dont les autorités continuent de maltraiter les médias.
Le Cameroun est un état de droit et nos lois prévoient que les journalistes doivent être jugés. Alors, nous continuons à demander pourquoi la loi n'a pas été appliquée. Nous appelons les autorités compétentes à enquêter et à remettre tous les auteurs à la justice. Personne n'est au-dessus de la loi.
Samuel Wazizi, dont le nom légal était Samuel Adjieka Aboué, travaillait pour la chaîne locale Chilen Music Television. Ndi Ejwendi, journaliste indépendant basé à Yaoundé, dit qu'il devient impossible de faire des reportages dans les régions ouest anglophones du Cameroun sous une telle pression.
Si vous traitez une information qui semble donner un peu de crédit aux séparatistes, vous devez être sûr de faire face à un tribunal militaire. Ce n'est pas facile, nous ne sommes pas en sécurité.
Un porte-parole militaire et un porte-parole du gouvernement ont refusé de commenter sur Wazizi et sur les informations faisant état de sa mort.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée, à l'écoute de VOA Afrique.